parti ?
Oui.
Merci. Bonsoir. Alors, Géraldine me dit qu'il y a encore pas mal de personnes inscrites qui ne sont pas là. Mais s'il y en a vraiment beaucoup, je leur ferai un petit résumé de ce que j'aurais commencé par dire. Alors, aujourd'hui, dans ce cycle sur la nécessité ou non de déclarer un état d'urgence pour l'humanité, je vais parler plus spécifiquement des risques. Les risques que nous courons effectivement. Et là, si on fait un pas en arrière, c'est pas quelque chose comme mon enfance ou même mon adolescence, la manière dont nous nous représentons ces risques est extrêmement différente. Il s'est passé en particulier, si je m'en souviens, c'était dans les années 70, quand nous avons découvert que la disparition des dinosaures était liée à un événement cataclysmique. Nous savions bien que les dinosaures avaient disparu. Nous ignorions encore aussi que les oiseaux sont des dinosaures et qu'eux ont survécu et que, effectivement, on parle de la disparition des dinosaures non aviens, maintenant, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des oiseaux. Ça passionnait bien entendu aussi les enfants de découvrir que les dinosaures existaient toujours, mais qu'ils étaient beaucoup plus petits que ceux qu'on nous montre dans les musées d'histoire naturelle. Mais nous avons découvert que c'est l'arrivée d'un astéroïde, l'écrasement sur la Terre d'un astéroïde qui a provoqué la disparition des dinosaures. C'est un événement massif, c'est un astéroïde de 10 km de long, d'après ce qu'on a pu calculer, qui a provoqué un hiver artificiel par la présence de poussière dans l'atmosphère, mais qui a conduit à la disparition d'une quantité considérable de végétation, changement brutal de température, production dans un cas comme celui-là, quand il y a des grandes disparités qui apparaissent entre la température de la Terre, de la partie immergée de Terre et les océans, provoque bien entendu des typhons, des événements météorologiques tout à fait catastrophiques dans une tentative de la Terre de rétablir un équilibre entre la température des terres et la température des mers. Donc, nous sommes devenus conscients de cela. Nous avons commencé à expliquer aussi cet événement qui avait eu lieu en Sibérie, si j'ai bon souvenir, c'était en 1906, une grande destruction de forêts en Sibérie. C'était probablement là aussi une météorite ou un petit astéroïde. Un astéroïde de 10 km de long a provoqué donc de diamètre a provoqué la disparition des dinosaures. Les astronomes d'aujourd'hui calculent qu'un astéroïde de 1 km de diamètre serait suffisant pour mettre en danger les mammifères. Comme vous le savez aussi, c'est la disparition des dinosaures qui a été l'occasion pour les mammifères de pouvoir se manifester. Les mammifères étaient plus intelligents, mais ils étaient obligés, vu la présence massive des dinosaures, de se cacher, d'être vivre dans des terriers, sortir essentiellement la nuit. Et on cite cet exemple que l'évolution ne produit pas nécessairement des espèces plus intelligentes que celles qui disparaissent. C'était la taille massive des dinosaures qui leur donnait un avantage dans des climats qui leur permettaient de devenir des animaux aussi gros et aussi robustes, pas par leur intelligence, mais par leur masse, leur masse en tant qu'animal. On considère qu'il y a, on a répertorié en ce moment, il y a 1700 astéroïdes, corps célestes importants, qui représentent un risque potentiel pour l'humanité. Vous avez dû voir, c'est un thème de film récent comme Armageddon, il y avait aussi, comment ça s'appelait, Deep Impact, la possibilité que nous avons maintenant, quand nous voyons arriver un astéroïde en proximité de la Terre, d'éventuellement là de pouvoir faire quelque chose, c'est-à-dire en particulier de pouvoir utiliser notre armement thermonucléaire à quelque chose de plus intéressant que la propre élimination de nos congénères et d'éventuellement aller détruire quelque chose qui est un corps extrêmement dangereux qui vient à notre rencontre. Donc, il y a un risque de type astronomique pour notre Terre. Heureusement, des événements de ce type-là sont rares. Des corps célestes de cette taille arrivant à la surface de la Terre, mais ça existe. Et puis, vous le savez, nous sommes bombardés en permanence par des petites météorites que l'on retrouve à la surface de la Terre, mais qui aussi arrivent parfois de manière saisonnière, comme dans ces pluies de météorites, qu'on a pluies d'étoiles filantes, comme nous disons, et qui sont en réalité des pluies de météorites, bien entendu, quand nous traversons une partie de l'espace particulièrement dense de ces petits corps. Il y a d'autres risques géologiques, ceux-là, qui sont de la taille du danger pour la vie à la surface de la Terre, qui est le risque de présenté par les volcans. Alors nous connaissons essentiellement les volcans sous la forme de danger qui représente un danger pour des populations vivant à proximité, mais nous savons par l'histoire mais aussi surtout par les empreintes géologiques que des éruptions volcaniques peuvent être beaucoup plus considérables que celles que nous connaissons. Il y en a une en particulier, une en 1815, qui a provoqué des famines à la surface de la Terre. Un volcan en Indonésie, le Rambo, dont on parle peu, mais qui a provoqué un mini-hiver artificiel dû aux poussières dans l'espace, qui a conduit à des famines, en particulier en France. Et petite anecdote que les Américains connaissent, si on a ouvert les États de l'Indiana, le territoire de l'Indiana et de l'Illinois à la population colonisatrice d'origine blanche, c'est en raison des famines qui avaient lieu en 1816 sur la côte Est et qui a conduit les populations à essayer de trouver des endroits plus propices. Donc nous connaissons, je dirais, ces quelques générations avant nous, c'est de l'ordre des arrière-grands-parents, de nos arrière-grands-parents, des catastrophes importantes. Mais il y a eu des catastrophes beaucoup plus considérables, et en particulier une catastrophe supervolcanique, comme on dit, qui a détruit, c'était à l'époque du Permien, si j'ai bon souvenir, qui a détruit 50% des espèces animales, et si j'ai bon souvenir, 25% des espèces végétales. Donc la possibilité d'avoir des événements volcaniques extrêmement, extrêmement dangereux. Un des événements qui les plus dangereux à la surface de la Terre le chiffre est de l'ordre de 300 000 il y a 300 000 ans, c'est l'explosion d'une boule de magma dans le parc aujourd'hui de Yellowstone aux États-Unis. Mais nous savons que la boule de magma qui est en train de se former, qui s'est reformée depuis, a une taille qui est probablement de l'ordre de grandeur de celle qui avait conduit à un événement tout à fait considérable, provoquant là aussi un hiver de type naturel, mais qui détruit les espèces vivantes, animales et végétales, de manière tout à fait considérable. Donc, le risque existe. Là, nous n'avons même pas, au niveau de la science-fiction, de représentation de comment combattre une boule de magma en train de se créer pas très loin de la surface de la Terre et qui pourrait conduire à ce qu'on appelle un méga événement de type volcanique qui pourrait là aussi détruire les espèces animales et végétales de manière tout à fait considérable. Quelques géologues se sont aventurés à des tentatives de percer des puits autour, des endroits connus comme étant dangereux pour faire évaporer, pour faire dissiper une partie de la chaleur dans l'atmosphère. Mais à ma connaissance et dans les livres que j'ai consultés, il n'y a pas de projet véritablement de cet ordre-là. Là, nous sommes entièrement désarmés. Nous ne pouvons même pas imaginer que, comme dans le cas de météorites, d'astéroïdes venant de notre direction, que nous pourrions faire quelque chose, essayer de combattre un danger qui se préciserait. Alors, autre événement de type naturel, ce sont les épidémies. Les épidémies, bon, bien sûr, sont d'ordre naturel. Elles dévastent les populations humaines de manière tout à fait considérable. On considère que la peste de Justinien, c'est quoi, c'est au 4e ou au 5e siècle, qu'elle a tué la moitié de la population dans l'Empire romain à l'époque, donc c'est tout à fait considérable. La peste, bien entendu, la grande peste du Moyen-Âge, là aussi, éliminant une partie importante de la population. Et pour penser à un événement plus proche de nous, vous le savez sans doute, Apollinaire, notre grand poète, est mort en 1918, mais il n'est pas mort des blessures qu'il avait subies effectivement pendant la guerre. Il est mort dans la grippe espagnole. Et la grippe espagnole a tué à la surface de la Terre 50 millions de personnes, à comparer aux 17 millions de morts de la guerre. Il y a pratiquement trois fois plus de personnes qui sont mortes entre 1918 et 1920 de la grippe espagnole que de la guerre en tant que telle. C'est évidemment pas une manière de justifier les morts de la guerre, mais c'est pour vous montrer la taille des événements de type épidémie. Nous sommes mieux armés parce que nous avons compris pas mal des mécanismes relatifs aux microbes d'ordre bactérien ou virus. Mais comme vous le savez, on parle maintenant de super germes. Notre utilisation massive des antibiotiques a produit aussi des souches résistantes, comme l'on dit. Et surtout, nous avons la capacité, dans le cadre de guerres bactériologiques, nous avons la capacité de créer des armes à partir de notre capacité à faire du génie génétique maintenant et à modifier ces organismes. Nous pourrions recréer un microbe particulièrement dangereux en combinant certaines des propriétés que nous connaissons. Par exemple, si on voulait en faire une arme de guerre, on pourrait prendre une bactérie ou un virus dont nous savons que la période de latence est extrêmement longue. Donc il y a une période de... Comment appelait-on ça? D'incubation, exactement, d'une période d'incubation longue, pour que l'ennemi ne soit pas prêt. Nous pourrions combiner des propriétés que nous connaissons, bactéries par exemple particulièrement létales, particulièrement contagieuses d'une personne à une autre, etc. etc. Nous avons non seulement, nous minimisons le danger que représente pour nous le danger d'épidémie, parce que nous avons maintenant une certaine maîtrise et parce que les grandes épidémies datent d'un certain temps, mais nous avons par ailleurs la possibilité, par l'intention mauvaise, de multiplier le risque en créant dorénavant des germes pathologiques de manière artificielle. Bien entendu, ce qui est créé comme microbe est d'ordre naturel, mais à l'aide de techniques de type technologique classique. Et comme le faisait remarquer un auteur, l'équipement pour produire des armes bactériologiques, cela peut se faire maintenant dans une chambre de taille moyenne, c'est-à-dire qu'il ne faut pas d'énormes équipements. Vu la rapidité de la reproduction de ces organismes, on peut faire les choses extrêmement rapidement. Alors, intention mauvaise, mais aussi possibilité d'accident. Un exemple connu, des chercheurs australiens travaillent sur une bactérie, la variole, essayent de réguler la fécondité des souris en manipulant le microbe de la variole chez la souris, et provoque de manière incontrôlée et par erreur un germe absolument résistant à toutes les, à tous les médicaments que nous pourrions utiliser. Donc, pas seulement intention mauvaise, mais aussi risque d'accident. Le risque, par exemple, aussi dans le cas de microbes, nous considérons qu'ils ont disparu et que nous conservons soigneusement pour des buts de recherche dans des laboratoires, dans des éprouvettes dans des laboratoires, un risque de contamination accidentelle, un accident arrivant à l'endroit de stockage et des choses de cet ordre-là. Donc, les risques naturels précèdent absolument notre possibilité d'augmenter les risques en tant qu'être humain de manière volontaire ou involontaire ou simplement par la présence de notre espèce en grand nombre à la surface de la Terre. Quand on regarde ces différents risques et qu'on les combine, des chercheurs s'amusent à nous provoquer par des paradoxes. En combinant le risque de météorites, d'épidémies et de volcans, le risque que nous mourions dans ces événements est 1500 fois plus élevé que le risque de mourir dans un accident d'avion. Alors, l'accident d'avion, nous le voyons dans les journaux, c'est quelque chose d'affreux, mais simplement, en utilisant les chiffres, en multipliant les risques les uns par les autres, parce qu'il ne faut pas, bien sûr, penser qu'un risque d'un volcan empêche le risque de météorite. Le risque se combine, les risques se combinent. Je m'étais amusé, si on peut dire, c'était à l'époque de Fukushima, et quand on nous parlait d'un événement comme celui-là et qu'on essaye de minimiser les risques pour nous tous d'un accident de ce type-là, j'avais là fait un calcul de type élémentaire, justement, comme dans cet exemple de risque cataclysme d'ordre naturel plus élevé que le risque de mourir dans un avion. Et quand on nous dit, à partir du simple chiffre, nous disant que dans les centrales nucléaires, le risque est calculé de manière à ce que le risque soit quasi inexistant, c'est-à-dire un risque d'accident tous les 5000 ans, à mettre en perspective, bien sûr, à partir du fait que, en général, bien que maintenant vous le savez, pour des raisons d'économie, on essaye de prolonger la vie des centrales nucléaires, qui vivent 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans peut-être, à comparer au risque d'un accident tous les 5000 ans. Mais je m'étais amusé à partir de ce chiffre-là et le combiner avec le fait qu'à l'époque de Fukushima, si je m'en souviens, le nombre de centrales nucléaires en fonctionnement est de l'ordre de 490. Quand vous combinez l'ensemble des risques de 5000 ans par centrale, sur un chiffre qui est quasiment de 500, vous arrivez à un accident tous les 15 ans. C'est-à-dire que cet accident qui vous paraît pratiquement impossible parce qu'il n'arriverait que tous les 5000 ans, si nous avons de l'ordre de 500 centrales, un accident tous les 15 ans. Et quand vous regardez Fukushima, et que vous le mettez en perspective justement avec Three Mile Islands, avec Tchernobyl, avec encore d'autres incidents qui ont lieu, vous pouvez voir, depuis que nous avons des centrales nucléaires, c'est à peu près de l'ordre de 15 ans. Donc ce n'est pas, il ne s'agit pas de série noire dans ce que nous avons vu. Non, c'est ce que les chiffres auraient pu nous montrer. C'est simplement que notre vigilance est endormie par cette idée d'un accident tous les 5000 et que nous mettons, je dirais spontanément, entre parenthèses, que quand il y a 500 centrales, bien entendu, le risque d'une centrale n'élimine pas le risque d'une autre, ça la combine, à la surface de la Terre. Bien entendu, ce n'est pas Fukushima qui a un accident tous les 15 ans, c'est à la surface de la Terre dans son ensemble. Passons aux risques qui sont liés à nous en tant qu'êtres humains. J'ai mentionné la guerre éventuellement bactériologique, mais il y a bien entendu les guerres que nous causons nous-mêmes. Nous pouvons nous dire, il est extraordinaire qu'il y a eu 50 millions de victimes de la grippe espagnole, mais nous pourrions aussi bien nous ébouder sur le fait qu'en 4 ans, nous serions quand même arrivés à détruire 17 millions de personnes, rien que par les guerres que nous livrons les uns aux autres. Et ces guerres, nous le savons, nous avons des armes de plus en plus létales que nous utilisons dans les guerres que nous faisons. Vous savez, cette association de défense des propriétaires d'armes individuelles aux États-Unis, la National Rifle Association, extrêmement puissante du point de vue politique, qui joue un rôle dans les élections, qui peut pratiquement mettre son veto à la nomination d'un candidat. Un de ses mots d'ordre, c'est « ce ne sont pas les armes qui tuent, ce sont des êtres humains ». Mettant entre parenthèses le fait d'observation qu'une arme n'est pas un objet quelconque et qu'un individu pouvant éventuellement saisir un couteau de cuisine n'est pas aussi dangereux que celui qui peut saisir un revolver ou ces armes à répétition que l'on voit maintenant qui sont utilisées dans les massacres de masse. Bien entendu, l'objet, lui, est inerte. Mais la combinaison entre l'être humain et l'objet, quand il cesse d'être inerte et quand il est utilisé dans le but pour lequel il a été conçu, peuvent être extrêmement dangereux. Il y a une différence entre un peigne et une kalachnikov, bien que les deux doivent être actionnés par un être humain. La possibilité de dangerosité de la combinaison n'est pas comparable dans un cas et dans l'autre. Il est dommage que cet argument ne soit pas utilisé davantage par les gens qui combattent justement ces tentatives d'innocenter la présence des armes comme étant ne représentant pas un danger en soi. Si l'on pense aux armes nucléaires, vous savez, elles sont en nombre considérable. Les États-Unis viennent de dénoncer un accord sur les armes thermonucléaires. La Russie, bien entendu, va emboîter le pas et nous allons repartir dans une guerre de type classique. Je parlerai d'un autre risque aussi, parce que nous sommes tout particulièrement maintenant dans un autre type de risque, qui est un risque de cyberguerre, de guerre cybernétique, de guerre numérique. Mais j'en parlerai un peu plus tard, quand j'aurai pu développer un tout petit peu les arguments sur la technologie. Les armes thermonucléaires, extrêmement, extrêmement dangereuses, bien entendu. Heureusement, peu ont véritablement été utilisés. En 1945, bien sûr, il y a eu Hiroshima et Nagasaki. En 1952, les Américains ont fait exploser une bombe qui était 200 fois plus puissante que celle qui avait été utilisée au Japon. Et toujours la même année, les Russes ont fait sauter une bombe qui était 5 fois plus puissante, mais dont on sait, ils l'ont expliqué, l'explication est vraisemblable, ils auraient pu la rendre 50 fois plus puissante, et c'est en raison des risques de contamination qu'ils avaient fait. La Tsar Bomba était relativement modeste par rapport aux possibilités. Donc nous avons le nombre d'armes à la surface de la Terre est considérable, en plusieurs milliers. Il y a 9 puissances nucléaires, si on inclut dans le nombre Israël, qui dément depuis, je crois que c'est la fin des années 50, posséder l'arme nucléaire, mais dont les gens informés disent qu'elle existe véritablement. Certains pays, comme le Pakistan, possèdent la bombe atomique et l'ont disséminée, en particulier vers la Libye, vers la Corée du Nord, pour des raisons d'ordre géopolitique. Et il n'est pas impossible que, parce que 600 incidents de vol de matériaux fissiles ont été enregistrés au fil des années, que des personnes possèdent le moyen de faire des bombes nucléaires de manière, on pourrait dire, artisanale si on veut, parce que la préparation d'une bombe de type atomique demande quand même un équipement très important, comme par exemple les centrifugeuses qui permettent de concentrer un certain type d'isotopes pour constituer le noyau explosif de la bombe. Mais je vous l'ai dit, le risque existe maintenant également de guerres bactériologiques qui demandent là un faible équipement. Les choses rarement mentionnées, mais qui pourtant vraies, la présence de l'invention de l'Internet a rendu la communication de l'information beaucoup plus simple